Vous écoutez, on lit pour vous.
Ce que j'ai vu m'a marqué pour la vie. Le témoignage d'un survivant de Nagasaki. Un texte de Magdalene Boutros paru le 2 août 2025 dans Le Devoir. Terumi Tanaka avait 13 ans lorsque la bombe atomique a explosé près de chez lui, à Nagasaki. Ce que j'ai vu m'a marqué pour la vie, confie-t-il depuis le Japon. Témoin de l'agonie de ses proches, de la dévastation à perte de vue et des souffrances sans fin causées par la bombe et ses radiations, cet Hibakusha, nom donné au Japon aux survivants des bombardements de Hiroshima et de Nagasaki, a consacré sa vie à dénoncer l'arme nucléaire, un combat pour lequel l'organisation qu'il dirige, Nihon Hidankyo, a reçu le prix Nobel de la paix en 2024. La journée du 9 août 1945 avait débuté de manière ordinaire, raconte au Devoir l'homme de 93 ans en se remémorant cet épisode fatidique. Il y avait eu une alerte aérienne tôt le matin, puis elle avait été levée et tout semblait revenir à la normale. Au même moment, un bombardier B-29 de l'armée états-unienne survolait le ciel japonais. Mais plutôt que de frapper comme prévu la ville de Kokura, alors ensevelie sous la fumée d'un précédent bombardement, le pilote avait reçu l'ordre de se diriger 200 kilomètres plus au sud, vers Nagasaki. On n'a entendu que le vrombissement de l'avion, poursuit celui qui était à l'époque en première secondaire. Puis tout à coup, une lumière blanche aveuglante a tout illuminé. À 11h02, une bombe atomique gorgée de plutonium-239 a explosé à 500 mètres d'altitude au-dessus du quartier Urakami, dans le nord de Nagasaki. Avec une puissance de 21 kilotonnes de TNT, soit 1400 fois celle d'une bombe conventionnelle, l'arme nucléaire larguée le 9 août 1945 était plus puissante encore que celle lancée 3 jours plus tôt sur Hiroshima. Instinctivement, j'ai couvert mes yeux et mes oreilles, poursuit Terumi Tanaka, dont la maison se situait à 3,2 km de l'hypocentre. Puis, l'onde de choc est arrivée et j'ai perdu connaissance. À son réveil, une grande porte vitrée recouvrait entièrement son corps. Étrangement, le panneau n'était pas brisé, alors que toutes les autres vitres de la maison avaient été soufflées. Une étonnante couche protectrice qui lui a probablement sauvé la vie. Pulvérisation. Sous l'hypocentre, la pulvérisation a été totale. Dans un rayon d'environ 1,5 km, la majorité des bâtiments, faits en bois au Japon, se sont effondrés. De nombreux blessés ont été ensevelis vivants sous les décombres. D'autres, qui se trouvaient à l'extérieur au moment de la déflagration, se sont mués en torches humaines. L'onde de chaleur provoquée par l'explosion atomique a allumé des incendies. Partout, se remémore l'homme avec calme. Et à ce moment, personne ne savait encore que des radiations étaient émises. Ceux qui se sont approchés de l'hypocentre pour porter secours aux victimes ont perdu la vie des jours plus tard. À la fin de l'année 1945, le bilan s'était alourdi à 70 000 victimes à Nagasaki, alors que le jour même du bombardement, environ 35 000 personnes avaient perdu la vie. Malgré cet effet dévastateur des brûlures, les dégâts thermiques à Nagasaki, situés dans une vallée entourée de collines, ont été plus circonscrits qu'à Hiroshima, cerclés d'une plaine où jusqu'à 140 000 personnes sont mortes dans les mois suivant l'explosion. Sans avertissement. Dans cette apocalypse nucléaire, la seule, avec Hiroshima, à avoir été vécue dans l'histoire de l'humanité, Terumi Tanaka a perdu 5 membres de sa famille. En un instant, une seule explosion a tué des dizaines de milliers de personnes en les brûlant vives, en les exposant aux radiations, en les blessant mortellement. Et tout ça sans avertissement, qui aurait permis aux civils de se protéger, dénonce-t-il aujourd'hui. mais pendant les 7 années de l'occupation états-unienne ayant suivi la capitulation du Japon, du 2 septembre 1945 au 28 avril 1952, la parole des Hibakusha a été réduite au silence. Parallèlement, leur avenir s'assombrissait. Nombre d'entre eux développaient des maladies liées aux radiations, pendant que les autres étaient contraints de vivre avec la peur constante de tomber malade. La discrimination sociale avait aussi fait son apparition. Les gens ont commencé à croire que les radiations rendaient le corps humain dangereux et que les enfants nés de mères irradiées seraient forcément anormaux. Ce n'est qu'après la fin de l'occupation et après que les États-Unis ont testé une bombe à hydrogène dans l'océan Pacifique le 1er mars 1954 que les Japonais ont pleinement pris conscience des effets à long terme de ces armes de destruction massive, estime Terumi Tanaka. Cette bombe H 715 fois plus puissante que celle utilisée à Nagasaki avait mené à la contamination des membres d'équipage du tonnier japonais Daigo Fukuryu Maru et de 900 autres bateaux de pêche. Message actuel. À partir de ce moment, les Hibakusha ont commencé à dire clairement « De telles armes ne doivent jamais être utilisées. Ce ne sont pas des outils de guerre, mais des instruments de meurtre de masse. » Des associations de victimes ont été formées, dont Nihon Hidankyo, la Confédération japonaise des organisations de victimes de la bombe atomique et de la bombe à hydrogène, créée en 1956 et qui poursuit deux objectifs. Le premier vise à ce que l'État japonais assume pleinement la responsabilité des soins et de l'aide aux victimes. Les dommages causés par les radiations sont très particuliers et différents des blessures classiques causées par les bombes, fait valoir Terumi Tanaka, l'un des coprésidents de Nihon Hidankyo. Une victoire partielle a été obtenue en 1957 lorsque le gouvernement japonais a accepté de prendre en charge les frais médicaux des Hibakusha. Mais l'État continue d'affirmer qu'il n'a aucune responsabilité pour les personnes décédées. L'État japonais n'a d'ailleurs jamais réellement mené d'enquête pour déterminer combien de personnes sont mortes, déplore-t-il. Comme second objectif, Nihon Hidankyo veille à ce que les bombes atomiques et à hydrogène ne soient plus jamais utilisées. Les armes nucléaires sont des armes inhumaines qui tuent de manière extrêmement cruelle, sans discrimination. Elles doivent être abolies dans le monde entier. Lorsque les tensions liées à la guerre froide étaient à leur paroxysme et qu'un sommet de 70 000 têtes nucléaires avait été atteint dans le monde, Nihon Hidankyo faisait résonner son plaidoyer avec force pour sensibiliser les décideurs aux horreurs liés aux armes nucléaires. Prix Nobel. Et il le fait encore aujourd'hui. Nous sommes les seuls humains à avoir vécu l'enfer nucléaire, rappelle Terumi Tanaka. En 69 ans d'existence, nous avons inlassablement répété qu'il ne fallait jamais recommencer. Mais il existe encore 12 000 ogives nucléaires dans le monde, dont 3 000 prêtes à être lancées instantanément. Cet effort de sensibilisation inlassable a valu à Nihon Hidankyo de recevoir le prix Nobel de la paix en 2024, après 7 décennies de travail. Au fil des ans, Terumi Tanaka avait fini par croire que le gouvernement norvégien ne voulait pas, pour des raisons diplomatiques, souligner le travail d'une organisation regroupant des victimes de l'armée états-unienne. Mais celui qui a prononcé le discours d'acceptation à Oslo croit que le contexte international a changé avec le temps, notamment en raison de la menace formulée par la Russie d'utiliser une arme nucléaire tactique en Ukraine. Le rôle joué par les Hibakusha a été immense dans l'établissement du tabou nucléaire. C'est une norme morale selon laquelle les armes nucléaires ne doivent plus jamais être utilisées et qui est en train de s'effriter. C'est peut-être pour ça que notre contribution a été reconnue. un travail de front qui s'est éteint progressivement puisque les Ibakusha sont aujourd'hui très âgés ou déjà décédés. Avec sérénité et confiance, Terumi Tanaka espère que les plus jeunes générations continueront de propager leur message. Nous avons laissé de nombreux témoignages, des récits écrits, des illustrations, des vidéos. Je souhaite que les jeunes ne considèrent pas cela comme une histoire du passé, mais comme un enjeu qui les concerne directement. Puisque le danger n'est pas théorique, il est réel, ajoute-t-il. C'était « Ce que j'ai vu m'a marqué pour la vie », le témoignage d'un survivant de Nagasaki, un texte de Magdalene Boutros paru le 2 août 2025 dans Le Devoir.
Comment sortir les lecteurs des chambres d'écho, un texte de Judith Lachapelle paru le 21 juillet 2025 dans La Presse. Comment combattre la division, la polarisation, les chambres d'écho dans lesquelles s'enferment les électeurs et qui polluent le débat public, particulièrement aux États-Unis? Le journaliste américain Isaac Saul y a réfléchi. Et sa proposition pour rapprocher la gauche et la droite américaine est fort intéressante. Le comté de Bucks en Pennsylvanie, où Isaac Saul a grandi, est une des régions où la division politique est la plus marquée aux États-Unis. En novembre 2024, Donald Trump y a remporté la majorité avec à peine 0,07% d'avance sur Kamala Harris. J'ai grandi dans cet endroit où des membres de ma famille, des amis, des professeurs, des collègues se situaient sur tout le spectre politique, nous raconte le journaliste, en direct de son bureau de Philadelphie. À une certaine époque, tous ces gens pouvaient se retrouver dans les mêmes médias. Des figures légendaires du journalisme américain, comme l'animateur Walter Cronkite du réseau CBS, arrivaient à rejoindre les auditeurs de toute tendance, se souvient-il. Mais il a toujours eu l'impression que les gens ne prenaient pas suffisamment la peine de se comprendre les uns les autres. De façon générale, dans ce pays, nous débattons, mais nous n'avons pas beaucoup de dialogue, selon le journaliste Isaac Saul. Au fil des ans, il a vu le fossé se creuser, surtout après l'élection du président Barack Obama. La montée de Facebook, le virage de plus en plus partisan pris par les médias, tant dans les institutions comme Fox News que dans les nouvelles publications numériques, ont détérioré le débat public. Isaac Saul est devenu journaliste à cette époque, au début des années 2010. Ses premières années dans le métier l'ont déçu. Des titres d'articles tendancieux, des angles partisans. J'ai aussi réalisé que, lorsque j'écrivais dans le Huffington Post, un média plutôt de gauche, ma famille et mes amis conservateurs ne lisaient rien de ce que j'écrivais. Pas parce qu'ils n'aimaient pas ces articles, mais parce qu'ils n'aimaient pas la tendance politique du média. Ça m'a semblé vraiment dangereux que les gens vivent ainsi dans leur bulle médiatique. En 2019, il s'est finalement décidé à faire du journalisme à sa façon. J'avais toujours eu l'idée d'une publication médiatique qui essaierait de rassembler tous les membres de ma communauté sous un même toit, les conservateurs, les libéraux et les indépendants, avec un terrain commun de faits, d'arguments et de récits à discuter et à débattre. Vaste programme qui a donné naissance à l'infolettre Tangle. Aujourd'hui, l'équipe de Tangle, qui compte maintenant une douzaine d'employés, offre à ses 400 000 lecteurs, le quart sont des abonnés payants, une revue de presse quotidienne des principaux événements de l'actualité américaine. On y résume comment la nouvelle est traitée et commentée par la presse de gauche et de droite en misant sur les arguments rationnels plutôt que les coups de gueule caricaturaux. Tangle ne s'identifie donc ni comme conservateur ni comme libéral, ni alternatif ni centriste d'ailleurs. Être centriste, c'est une idéologie à part entière, dit son directeur. Neutre alors? Oui, on pourrait dire que Tangle est neutre. Mais est-ce possible d'être neutre quand le débat politique américain est vicié par le mensonge et la désinformation? Isaac Saul balaie la question. D'abord, lui-même n'est pas neutre. Il livre aussi le fond de sa pensée sur les enjeux d'actualité. Et mon but n'est pas de rassembler tout le monde en cercle en se tenant par la main pour dire qu'on est d'accord et qu'on s'aime, ironise-t-il. En fait, on n'arrive même pas à s'écouter à la base. Et il est là son objectif, que les gens commencent par s'écouter. Isaac Saul affirme, « Je pense que la plupart des gens ne souhaitent pas vraiment comprendre les gens avec lesquels ils sont en désaccord. Ils cherchent surtout une occasion de donner leur opinion. » Alors, ce qui est vraiment intéressant à ses yeux, c'est de comprendre d'où vient son interlocuteur, quel a été son parcours de vie, comment ce dernier a-t-il influencé son point de vue sur l'avortement, la criminalité, l'immigration. D'ailleurs, il s'est lui-même imposé une habitude, toujours poser deux ou trois questions à son interlocuteur avant de faire connaître sa propre opinion. Une autre chose qu'Isaac Saul a décidé de faire différemment, c'est de reconnaître qu'il se trompe. Oui, oui, ça arrive, même aux meilleurs journalistes. Isaac Saul sourit à l'écran. La première fois où j'ai dû corriger une erreur dans une publication, j'ai pensé le faire discrètement. Et puis, je me suis dit que c'était une occasion de bâtir la confiance et d'être transparent avec mes lecteurs. C'est ainsi que sur Tangle, les rectificatifs s'affichent bien en vue, en tête de l'infolettre. Isaac Saul consacre parfois même des chroniques entières à reconnaître qu'il s'est trompé dans une analyse précédente. Dernièrement, il a publié un texte intitulé « 5 choses sur lesquelles je m'étais trompé à propos de Trump ». Dans les commentaires, on salue sa sincérité, son honnêteté et son humilité. Les lecteurs accordent de l'importance à cette reconnaissance des erreurs, dit-il. Le lectorat de Tangle a bondi de façon fulgurante durant la dernière campagne présidentielle, signe que les Américains cherchent des façons de s'informer autrement. En fait, pas que les Américains. Les abonnés sont désormais répartis dans une soixantaine de pays. Et ils sont majoritaires à se situer à gauche du spectre politique, reconnaît Isaac Saul. C'est une préoccupation, ajoute-t-il. Tangle mise désormais une bonne partie de son budget de promotion à se faire connaître des électeurs conservateurs. Et pour la suite? Les endroits où le discours public souffre de polarisation ne manquent pas, constate Isaac Saul. Tangle pourrait faire des petits dans les prochaines années. Je pense qu'on pourrait lancer un Tangle Pennsylvanie ou même un Tangle Canada ou un Tangle France. Pourquoi pas? C'était « Comment sortir les lecteurs des chambres d'écho », un texte de Judith Lachapelle, paru le 21 juillet 2025 dans la presse.
D'amour et de coco de canne. Un texte d'Émilie Côté, paru le 5 juillet 2025 dans la presse. Daniel Bonin et Maryse Sauvé se consacrent à la production d'œufs de canne, ce qui leur a valu une sélection au dernier gala des lauriers de la gastronomie. Leur ferme, à la canne blanche, C-A-N-N-E, le nom n'est pas anodin, comme ils sont non-voyants, est située à Stockley Sud, dans les cantons de l'Est. L'origine de votre rencontre? Ose-t-on demander au couple au milieu de notre visite. À la Fondation Mira. Pour deux aveugles, c'est difficile de se rencontrer. Il faut vraiment se spotter quelque part, lance Daniel Bonnet avec son rire si chaleureux. En 2018, le couple a fondé la ferme d'élevage à la Canne Blanche, vouée à la production d'œufs de canne. Il faut mieux faire connaître le produit, répète souvent avec enthousiasme Marie Sauvé, qui fournit néanmoins déjà des épiceries et des tables de renom dans plusieurs coins de la province, dont le bistrot Hortus, Billy Giffin et le Hatley du manoir Hovey. Le chef, Alexandre Vachon, a même créé un plat d'œufs de canne servi avec du caviar du lac Saint-Pierre et un sabayon de mousseux sur une planche de noyer taillée par un ébéniste avec une mention en braille d'à la canne blanche. Un œuf à la fois. Marie Sauvé a élu domicile sur une terre agricole de Stockley-Sud, située entre Waterloo et Eastman, il y a 17 ans. À l'époque, elle n'avait pas encore rencontré Daniel et elle ne pensait jamais débarquer un jour, à l'improviste, dans la cuisine de grand chef avec des cocos pleins les bras. Il a fallu que ses enfants quittent le nid et que sa fille aînée lui offre des oiseaux pour combler le vide, dont deux cannes. Maryse leur a trouvé un petit coin dans sa cuisine, puis dans son cabanon. Puis Daniel et elle ont été séduits par les œufs de la femelle du canard. Il y a eu un premier enclos test de 22 cannes. Puis, en 2018, le couple a fait une demande à la Financière agricole du Québec pour bâtir une première canardière. En 2023, le couple, frustré d'un refus d'aide financière, a fait une campagne de sociofinancement pour faire construire un deuxième bâtiment et c'est là qu'est venu le soutien d'un entrepreneur et investisseur sherbrookois que Maryse et Daniel appellent leur dragon, Sébastien Grégoire. Quand ce dernier a entendu le couple en entrevue à la radio, il est tombé sous le charme et il l'a appelé immédiatement pour aller le rencontrer. Ils m'ont inspiré et ce fut une rencontre incroyable, relate celui qui est devenu leur associé. La force de la nature. La ferme compte actuellement 1400 cannes, des pondeuses et des bébés. Deux autres bâtiments seront érigés pour faire doubler la production annuelle qui est d'environ 300 000 œufs. Le but est d'augmenter l'offre pour répondre à la demande et de faire en sorte que plus de consommateurs et de restaurants découvrent les œufs de canne. Les cannes de Maryse et de Daniel sont nourries de grains naturels, sans antibiotiques et sans hormones. Elles vivent en petits groupes de 35 dans des enclos qui ont des planchers chauffants et qui ont chacun un bassin d'eau. C'est eux autres, les boss. On les laisse tranquilles pour éviter qu'elles vivent toute anxiété, explique Daniel. Le contact animal, c'est beaucoup d'ouvrage, mais c'est du vrai, affirme avec enthousiasme Maryse Sauvé. Maryse rit en pensant à quel point leur projet de première ferme d'élevage consacrée à la production d'œufs de canne au Québec était intrépide pour deux personnes non-voyantes qui n'ont aucune connaissance en agriculture. « Nous, on fonce », dit celle qui vante, avec raison, la qualité et le bon goût des œufs de canne. Vivre sans voir. Atteinte d'une maladie génétique rare, Maryse a commencé à perdre la vue à l'âge de 17 ans. Depuis 2024, elle ne voit que des reflets. J'ai une perception lumineuse, mais plus rien de clair et de franc. Pour sa part, Daniel a subi, en bas âge, 29 opérations pour un glaucome congénital, ce qui lui a permis de voir jusqu'à sa vingtaine. Au départ, je ne voulais même pas le dire. Je pensais que ma vie était finie. Daniel a vécu une période difficile, mais sa bonne humeur contagieuse est revenue avec le sport, le goalball, réservé aux athlètes ayant une déficience visuelle, ce qui l'a mené à Séoul aux Jeux paralympiques d'été de 1988. Je ne peux pas rester assis à ne rien faire, dit l'homme énergique et souriant. Daniel Bonin et Maryse Sauvé accueillent tous ceux qui passent par leur ferme à bras ouverts. Lors de notre visite, en mai 2025, le couple était ravi d'être nommé au gala des lauriers de la gastronomie. Nous avons reçu un certificat écrit en braille. C'était une belle attention. Pour deux aveugles, ce n'est pas facile de faire du PR dans un gala, appréhendait Daniel avec humour. Finalement, une autre entreprise l'a remporté dans leur catégorie, mais la nomination a néanmoins permis de mieux faire connaître à la canne blanche une histoire d'amour avant d'être une histoire d'œuf de canne. Mais c'était peut-être écrit dans le ciel, puisque Maryse appelait Daniel « mon coco » bien avant d'en produire. Des œufs riches en nutriments. Les œufs de canne sont plus faibles en histamine que les œufs de poule, ce qui peut convenir à certaines personnes allergiques, et plus goûteux, avec un blanc consistant et un jaune volumineux. Ils contiennent trois fois plus de fer et de vitamine B12, et chaque unité contient 13 grammes de protéines. Où se procurer ceux de la canne blanche? Notamment dans certaines épiceries Avril, en ligne avec les fermes Lufa, dans certaines succursales de la chaîne Valmont et au marché public d'été de Stockley-Sud. C'était D'amour et de coco de canne. Un texte d'Émilie Côté, paru le 5 juillet 2025 dans La Presse.